Dans quelques secondes, vous allez écouter votre épisode du jour. Alors si vous aimez Dans les yeux d'Olivier en version podcast, dites-le nous en mettant des étoiles ou en écrivant un commentaire sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci. Lorsque la vie nous confronte aux pires épreuves, lorsque l'avenir semble perdu, il est fréquent de baisser les bras et de céder face au destin. Mais certaines personnes arrivent à remonter des profondeurs. Elles parviennent à dépasser ce qui semblait insurmontable. C'est ce qu'on appelle la résilience. Comment peut-on se surpasser face à un traumatisme qui aurait pu nous détruire? Quels sont les ressorts qui permettent de se reconstruire et de vaincre la fatalité? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Steven. Il est aujourd'hui un père de famille épanoui, mais il aurait pu connaître un tout autre destin. Son histoire, d'ailleurs, va sûrement vous rappeler quelque chose. Je suis Olivier Delacroix. Vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Soyez les bienvenus. Il y a près de 20 ans, Steven a connu la gloire. Il était membre d'un boys band qui a rencontré un succès fulgurant. Le groupe s'appelait Alliage. L'histoire de Steven commence en 1996. Il a alors 20 ans, vit de petit boulot à Nice, lave les pare-brises dans une station-service et sert de l'essence. Mais il rêve de grandeur, persuadé que son avenir est dans le cinéma. Il décide de quitter ses copains, sa famille, pour tenter sa chance à Paris. Au bout de 3 semaines seulement, il décroche son premier casting. Et là, surprise, on lui demande de chanter.
J'ai fait un truc qui... J'ai les 30 secondes les plus longues de ma vie, où j'ai eu le sentiment de me ridiculiser parce que j'avais chanté, tu vois, ça me poursuivait, Faith de George Michael. Ouais. Je connaissais même pas les paroles. Ouais. Alors je t'ai fait un boogie smooth groovy à la yaourt, one again. Ouais. Et le mec se marrait, je me dis super, il se fout de ma gueule. Ouais. L'horreur. Et à la fin, il me dit ok, super, on te rappelle. Et en rentrant, il y avait ce petit message, c'était la nana de l'agence qui m'avait laissé un message le temps de rentrer en métro, qui m'a dit rappelle-moi d'urgence. Donc je rappelle. Et elle me demande qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau à ce moment-là. Et je lui dis que je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'agence, rien de spécial. Et je lui demande pourquoi. Elle me dit parce que tu es pris. Et donc là, je me souviens avoir sauté au plafond, d'avoir hurlé de joie. Je raccroche, j'appelle ma mère, j'appelle mes potes à Cagnes-sur-Mer. Presque en larmes, quoi, tu vois. Ma première audition, je l'ai réussi. Et tout le monde hurle de joie et de bonheur pour moi. Et me demande, mais oui, d'accord, mais t'es pris dans quoi? Et je ne sais pas, je te dirai demain, je t'en dirai plus. Donc je pensais que ça allait être un rôle, tu vois, un second rôle, un rôle lointain dans une séquence où on me voit chanter, peut-être. Je me suis fait des films.
On s'imagine plein de trucs.
Ouais. Et le lendemain, je retourne à l'agence et le gars me dit « Est-ce que tu as déjà entendu parler des boys bands ?» Alors je lui dis « Vaguement, ouais, vite fait, parce que ce qu'il fallait savoir, c'est que là, on est en juillet 96. » Et depuis 3-4 mois, on commence à entendre et à voir à la télé, à la radio, les To Be Free, les G-Squad, les Worlds Apart. Oui. Mais on se moquait d'eux. Et le mec me parle de boys band. Donc c'est le choc. Tu vois, alors là, je dis, je sais pas, vous me donnez combien de temps pour réfléchir? Il me dit 2 minutes. Et à un moment donné, où je me suis dit, stop, maintenant je pense à moi. Les potes, c'est clair, ils vont se foutre de ma gueule. Mais je m'en cogne, il faut que je construise, il faut que j'y aille et puis on verra bien.
Et vous y allez.
Et on y va.
Pendant 6 mois, Steven et ses 3 acolytes vont répéter leurs chansons et leurs chorégraphies. Leur première grosse télé a lieu un dimanche après-midi sur le plateau de Jacques Martin, devant des millions de téléspectateurs.
Le groupe qui va venir chante Baila, c'est le groupe Alliage. Bravo, mademoiselle. C'est leur première vraie télévision.
Le succès est immédiat. Le single passe en boucle sur les grandes radios FM, le clip est diffusé sur les chaînes de télévision et l'album est très vite disque d'or. Du jour au lendemain, Steven et ses camarades d'alliage deviennent des idoles pour des milliers de fans hystériques. L'argent coule à flot et Steven, qui vient d'une famille modeste, n'est absolument pas préparé à cela.
On flambait, quoi. Et puis voilà, ouais, en effet, je faisais profiter de cette gloire à mon prochain. Voilà, donc on allait souvent dans les grands restaurants, les palaces. Mon banquier du jour au lendemain était devenu très gentil avec moi. Plus de problèmes de découvert ou de problèmes de carte ou de chéquier. Mais au contraire, bien évidemment, on ouvrait les portes du coffre-fort en disant, voilà, on vous prête tout ce que vous voulez, tout ce qu'il vous faut, machin, etc. Et voilà, en en gagnant 10 000, j'en dépensais 20 000. En gagnant 20 000, j'en dépensais 40 000. Et ça suffisait jamais. Et l'endettement arrive très rapidement, en fait. Mm-hmm.
Mais vous êtes, à cette époque, Steven le Magnifique.
Voilà, et l'insouciant. Ouais.
Et l'insouciant, justement. En fait, est-ce que vous avez perdu tout sens de la réalité? Est-ce qu'on est dans un autre monde?
On est dans un autre monde. On est dans le monde du coach qui tous les jours est là et te glisse, te susurre à l'oreille, vas-y, fonce.
Prends,
profite, sois bon, sois fort, sois beau, sois pro, prends pas le temps de réfléchir, pas d'état d'âme, fonce, tête baissée, etc.
Puisque tu es le meilleur.
Parce que t'es le meilleur, t'es le plus beau, et montre pas que t'es fragile, et montre pas nanana, parce que tu peux vite dégager, demain il y en a un autre, on te remplace, etc. Mm-hmm. Et ça, ce que j'avais, je voulais pas le perdre. Je voulais pas qu'on me remplace.
Pendant 3 ans, Steven joue son rôle à un rythme effréné. Galas, concerts, séances de dédicaces. Même si le boys band semble sur orbite, au bout de ces 3 années, des tensions apparaissent au sein du groupe. Et l'un de ses membres, Quentin, décide de quitter Alliage pour entamer une carrière solo.
Du jour au lendemain, comme ça, il se tire.
Ouais.
Quelques mois plus tard. Et là, ça commençait sérieusement à sentir le roussi. Mmh. La fin du groupe. Donc nous, on s'est pas démonté. On s'est dit, allez, on va continuer à 3. Et ça s'est arrêté. Voilà.
Ça s'est arrêté ?
Du jour au lendemain.
Du jour au lendemain.
Et avec la même violence et la même rapidité que ça a été, que ça a été construit, quoi, d'une certaine manière.
Du jour au lendemain, on ne vous répond plus au téléphone ?
Du jour au lendemain, plus de coups de fil, ouais. Plus d'amis, plus personne, plus de travail, plus de contrats, plus d'argent, donc plus d'autorisation de rentrer comme ça en boîte de nuit dans les palaces parisiens. Plus les moyens de pouvoir continuer ce train de vie, plus rien.
Donc là, non seulement vous êtes seul, mais vous êtes plombé par ces dettes.
C'est ça. Mmh. Bah, c'est-à-dire que les seuls courriers que je recevais, coups de téléphone que je recevais, c'était les banques qui menaçaient, qui, à juste titre, réclamaient l'argent que je leur devais. C'était les impôts. C'était certains restaurants, certaines boîtes de nuit.
Est-ce qu'il vous est arrivé de chiffrer cette dette?
Elle
s'élevait à combien, cette dette?
Elle s'élevait à l'époque, donc là on est en 99, ça tournait autour des 800-850 000 francs.
800-850 000 francs?
Ouais, on n'était pas loin du million de francs. Ouais. Oh. J'ai 23 ans, je suis Steven Gunnel d'Alliage, et je dois 850 000 balles. Voilà.
Couvert de dettes, Steven s'exile à Londres, coupe les ponts avec tous ses proches et cherche à rebondir, mais en vain. Les portes des producteurs restent toutes fermées. Steven sombre petit à petit dans la dépression.
Tu finis par avoir honte de moi et tu te mets la tête contre le mur et puis tu cherches à un moment donné, coûte que coûte, une faille, une issue pour arrêter de souffrir. Et c'est là que l'idée du suicide finit par te traverser l'esprit de plus en plus, et il faut y mettre un terme. Voilà.
Parce que ça fait mal.
Parce que ça fait mal, parce qu'on pleure sans savoir pourquoi on pleure, et il n'y a plus d'horizon, et il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien. Voilà. Et donc il faut trouver un terme. Et parallèlement, ou paradoxalement, étrangement, avant de commettre l'irréparable, il y a une image qui me traverse l'esprit, et l'image qui vient, c'est celle de ma maman. Mmh.
Mais c'est aussi peut-être dire au revoir à celle qui compte le plus pour vous à cette époque.
Certainement.
Et
c'est ce que je fais d'ailleurs.
C'est ce que vous faites.
D'une cabine téléphonique,
vous appelez votre mère.
Je l'appelle. Ouais.
Alors qu'est-ce qui se passe?
J'appelle maman en larmes. J'appelle maman en larmes et. Et je lui explique que ça va pas. Et qu'on va. ça va s'arrêter là. Et que c'est fini et que c'est irrémédiable. Et maman, sur un ton très serein, très calme, au moment où elle entend ma voix lui dire « je vais faire une bêtise », elle me dit « je sais, je peux rien faire pour toi. Je suis ta mère, je t'ai tout donné, je t'ai donné certainement avec ma maladresse aussi, comme je l'ai pu. Je n'ai pas 100 ou 200 francs pour te prendre un billet d'avion et te dire de rentrer à la maison, j'ai rien, je suis pauvre. Mais je te demande pardon. Parce que si t'en es là aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est de ma faute aussi. J'ai pas su te protéger de ça. Et maman me demande pardon. Et là, évidemment, les larmes coulent à ce moment-là. Et c'est moi qui lui demande pardon de l'avoir fait souffrir. Et il y a un dialogue qui s'installe tout doucement. Et maman me dit, écoute, je peux te donner qu'un conseil. C'est entre deux crises d'angoisse et avant de faire une bêtise, va te ressourcer dans une chapelle. T'avais la foi, mon fils. Retrouve-la. Il y a un grand silence qui s'installe et je lui dis d'accord.
Donc, vous raccrochez ?
Et là, je raccroche. Et je me rappelle, c'était un soir. Et en rentrant dans cette chapelle, j'avais les mains sèches, alors que d'habitude, j'avais les mains moites, j'étais pâle, je dégoulinais d'angoisse, de mal-être, tout simplement, du quotidien. Et là, je voyais, je sentais que... Tu vois, comme un ballon qui dégonfle d'un coup. Voilà. Et je me souviens avoir fermé les yeux et je me suis endormi dans l'église. Et quand je les ai réouverts, j'avais regardé l'heure et il s'était passé 4 heures. Voilà. Et quand je suis sorti de la chapelle, j'étais heureux. Et quelques jours plus tard, l'audace idiote d'aller chercher du travail.
Pourquoi l'audace idiote?
Parce que c'est comme un prince. On ne peut pas devenir servant. Un prince est un prince. Et pour moi, j'étais un prince dans l'esprit. J'étais quelqu'un qui était servi depuis 3 ans, à qui on servait la soupe, tu vois, à qui on amenait les bons plats, on distribuait du fric, et puis je faisais mon beau sur scène, etc. Tu vois, j'étais un prince, un cador. N'oubliez pas que je reviens de loin où j'ai eu la grosse tête, j'ai pété les plombs, pour parler concret, où j'étais plus moi, et il fallait redevenir le commun des mortels. Et je suis redevenu serveur dans un restaurant. Restaurant italien où je servais les pizzas.
Pendant 9 mois, Steven économise pour s'acheter un billet d'avion pour Nice. À son arrivée, sa mère l'attend. Avec son aide, il soigne cette dépression et tente de reprendre pied. Steven remarque que sa mère a changé. Il la surprend un jour en train de prier dans la cuisine. C'est alors qu'elle lui propose de la suivre dans une chapelle.
Elle me dit c'est là-dedans que ça se passe, donc je la suis. Et je fais le tour de la chapelle, comme ça, pour regarder. Et je me retrouve nez à nez, à un moment donné, avec un grand crucifix et... impossible de décoller mon regard de lui. Et je suis tombé à genoux, j'ai pleuré, avec ce sentiment de retrouvailles à l'intérieur. Et je sens une main sur l'épaule à ce moment-là, et je vois un prêtre qui se penche vers moi et qui me dit « Excusez-moi de vous déranger, vous ne soyez pas Steven Gunnell par hasard ?» Et je dis « Oui, mon père, c'est moi, comment vous savez ?» Et il me regarde et il me dit « Ben voilà, mon fils, je rends grâce, parce qu'en vous regardant, je contemple 2 miracles. » Le premier, c'est que ça fait 1 an que votre maman, elle vient ici tous les jours réciter son chapelet pour vous sauver, pour vous, parce qu'elle ne sait plus quoi faire pour vous sortir de la merde. Premier miracle, vous êtes là. Second miracle, mon fils, vous êtes ici dans la chapelle Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Bienvenue au club.
Cette révélation est le début d'une nouvelle vie pour Steven. La religion va l'aider à se reconstruire au point qu'il envisage même de devenir prêtre. Le père Benoît, qui est devenu son ami, l'a accompagné tout au long de ce processus spirituel.
À votre avis, mon père, et je suppose que vous l'avez évoqué ensemble, Steven aurait-il fait un bon prêtre ?
Bon, je veux pas trahir le secret.
Vas-y.
Mais je pense que non. Je pense que sa vocation est dans le monde et que c'est pas parce qu'on a la foi qu'on devient prêtre. Et bien sûr, on a parlé de ça avec Steven, parce que c'est classique dans la conversion, ce désir de vouloir tout donner.
D'absolu,
voilà. Donc dans ce désir d'absolu, au moment de la conversion, il s'est dit, mais en fait, à quoi Dieu m'appelle ? Est-ce que je suis pas appelé à être prêtre ? Ou moine, ou religieux ? Et voilà. C'est là qu'il faut. Enfin, moi, on a calmé les choses. Je dis, on va pas rentrer au séminaire tout de suite. J'ai pas mis le grappin dessus en disant, ouais, super, un ancien boys band qui va devenir prêtre, on va faire un tabac. Ouais. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout le. Non, il faut la sagesse de Dieu.
Parce que certains prêtres font des DVD, vous avez vu, ça marche pas mal.
Oui, c'est ça, tout à fait. On aurait pu. Mais on peut te mettre un col romain.
Oui, on peut.
Il aurait été un bon prêtre, mais je crois qu'il est encore mieux père de famille.
Car Steven est le père de deux enfants. Et l'autre rencontre de sa vie, c'est Sabrina. Cette jeune comédienne n'a pas connu le Steven d'alliage. Elle est entrée en contact avec lui bien plus tard, après avoir lu son livre, intriguée par la foi de cet homme qui tranchait dans l'univers du show business. Elle était alors loin de penser que ce garçon encore fragile allait devenir l'homme de sa vie. Un engagement qui a été fondamental dans le retour à l'équilibre de Steven.
Là, je savais qu'il y avait un acte à poser, c'était pour toujours. Voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare derrière. Tu vois, il faut y aller là, quand même. Et bien, à un moment donné, à chaque fois qu'on était re-ensemble pour aller boire un café, discuter, etc., aller faire un jogging, je me rappelle même, on était allé courir au bois de Boulogne, en sa présence, qu'est-ce que j'étais bien. J'étais consolé, j'étais apaisé. Et c'est sur cette paix que je me suis, moi personnellement,
décidé.
Et je me suis dit, cette paix, c'est la présence de Dieu. Et donc je crois que je crois que c'est un don de Dieu, Sabrina. C'est un cadeau. Voilà. Alors je vais m'efforcer du mieux que possible à la fin de lui rendre, pas en meilleur état, mais en plus ou moins bon état, ouais. Parce qu'elle m'est confiée que pour un certain temps.
Écoutez, pour l'instant, elle a l'air dans un état magnifique.
Ouais.
Voilà.
Sabrina,
le fait que Steven, en plus, ait cette foi, vous a marqué des débuts.
Ah, c'est indéniable. Il n'aurait pas eu la foi, je ne sais pas si ça aurait pu aller si vite, justement.
Si loin.
Et
lorsque vous le rencontrez, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui?
J'ai rencontré quelqu'un de lumineux, de franc, très spontané, ce qu'on trouve très rarement.
Et alors, à vous deux, il vous manque des choses ou pas? Ou finalement, ça va quand même, non?
Ouais, le troisième, peut-être.
Ouais, c'est ça la joie.
C'est bien, je la prends en direct.
Joie, en fait. Non, mais... peut-être le troisième.
Peut-être le troisième. Hein. Il faut...
Ouais, voilà.
Aujourd'hui, Steven s'est reconverti professionnellement et ça marche bien. Des projets plein la tête et un avenir qui s'est ouvert à nouveau. Ce matin, il réalise un film pour son ami Jean-Michel, un célèbre coiffeur. Pour l'occasion, Sabrina joue les modèles.
Tu peux pour moi, s'il te plaît, juste attraper un mouvement ici et quand tu coupes, tu vas doucement. Super, putain, génial.
Bon, en plein tournage, Steven.
En plein tournage. Jean-Michel Faretra, ici présent, il est un petit peu le premier qui m'a donné confiance pour avancer dans ce nouveau métier. Et en fait, j'ai trouvé ma vraie place qui est en fait derrière la caméra et de mettre les autres en lumière, en fait.
Bon, mais en même temps, dans ce milieu, hein, qui est le milieu des médias, du spectacle, vous allez à nouveau vous confronter aussi au même danger.
Hier, j'étais seul, hier. Mm-hmm. J'étais profondément seul. Aujourd'hui, j'ai Sabrina. Et je fais rien sans discuter avec Sabrina. Mm-hmm. On saute plus dans le vide comme autrefois, où on dit la moindre opportunité est la bonne. On prend... Non. Tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas bon à faire, tout n'est pas bon à... Il y a quelque chose de malsain dans l'opportunisme. Parce que quand tu commences à avoir un trésor et que tu deviens riche, et tu t'aperçois étrangement qu'il manque toujours quelque chose. Et c'est ça qui est malsain. Ça creuse un vide au lieu de te remplir et de t'épanouir. Et ça a creusé un vide chez moi à l'époque, jusqu'au jour où il y a eu la ruine.
Si Steven peut compter sur sa femme pour le soutenir, il peut aussi compter sur ses copains d'enfance qui lui sont toujours restés fidèles. Damien, Cédric et Olivier l'ont connu avant, pendant et après la folie d'alliage. L'engagement spirituel de leur ami ne semble pas les étonner.
J'ai trouvé ça un petit peu extrême, mais de toute façon, ça sauvait mon pote. Mais c'est vrai que, après, c'est toujours pareil. Il était extrême. Steven, quand il gagnait 30 euros en nettoyant des pare-brises, derrière, il disait « Allez, je vous invite à manger », et il s'en mettait pour 50 balles.
Ça, c'est sûr.
Voilà. Donc, il est toujours dans l'excès. Donc, pourquoi pas la foi, quoi. Il s'est cramé les ailes, il a rebondi. La foi l'a récupéré. Et dans la foi, il rencontre une femme magnifique qui lui donne deux enfants extraordinaires. Bon, quoi dire de mieux, quoi.
D'ailleurs, est-ce que vous considérez que cette période alliage, c'est un mal pour un bien ?
Elle est insupportable, cette question, pour moi.
Mm-hmm. Bah, excusez-moi. Pardonnez-moi, frère Steven.
C'est insupportable. Mais je suis obligé de dire la vérité, oui. C'est vrai que de porter le fardeau de cette image merdique qui m'a collé à la peau et qui me colle encore, certainement, je ne dis pas le contraire, j'en suis même tout à fait lucide, et sur laquelle maintenant je rigole, tu vois, je...
Que vous êtes capable d'affronter, surtout aujourd'hui.
Ouais, voilà, aujourd'hui, mais...
Vous avez deux, trois voilà. Armes,
mais oui,
vous êtes
oui,
un peu mieux armé qu'avant.
Oui, il faut le dire, c'est un mal pour un bien. Ouais. Mm-hmm. Voilà.
Ça s'appelle la résilience.
Ça s'appelle la résilience.
L'histoire de Steven est à mes yeux une preuve supplémentaire que le show business et ses gloires parfois éphémères peuvent se révéler de véritables machines à broyer des vies. La sincérité de Steven m'a touché, mais aussi sa force de caractère. Des qualités qui lui ont permis de reprendre son destin en main. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation Mathias Elena. Diffusion Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.